Chers amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous pour une émission Palabre où, en compagnie de Didier, nous allons aborder un écrivain très important de la littérature française.
Et
Didier,
justement, aujourd'hui, tu nous proposes de palabrer sur Paul Claudel.
Oui, on va palabrer donc autour de Paul Claudel aujourd'hui.
Alors justement, peux-tu nous présenter succinctement Paul Claudel ?
Oui, alors, présenter Paul Claudel, je reprendrai simplement les mots de St. John Perse, prix Nobel de littérature, mots qu'il prononça le 4 mars 1955 en hommage à Paul Claudel. Je le cite. « Il fut grand dans son œuvre, au-delà de son art. Il étendit à de plus larges bords la poésie française et fut, dans le lyrisme dramatique de son temps, l'Eschyle, après qui l'on ne voit croître de Sophocle, ni poindre d'Euripide. Intégrité de l'œuvre, sa puissance, richesse aussi de l'homme, la rectitude de sa foi entre ces deux forces adverses s'affirme impérieusement sans complaisance spirituelle. Sa posture serait celle de l'apôtre qu'il a lui-même représenté sur l'encre de sa croix. Je cite, la tête en bas et les pieds exaltés. Mais non, il fut tête d'or sous saint Thomas, comme Alexandre, élève d'Aristote. » Pour présenter Paul Claudel, je reprends aussi quelques mots de Maurice Blanchot que je cite. « Je ne sais quel Claudel dont la gloire nous parle, cet homme simple, très ancien, indissolublement lié à une foi inébranlable sans doute et sans secret, génie élémentaire qui s'affirme impétueusement et radieusement dans les limites d'un fonctionnaire chargé d'honneur. » Fin de citation. Si les étincelles que Nerval ou Rimbaud font briller à notre regard intérieur sont en or, qui ne leur a pas été donné, Claudel fut absolument le contraire de ce que nous nommons un poète maudit, c'est-à-dire un esprit qui ne peut se satisfaire de ce que la condition d'homme a de mutilé, un esprit qui se rebelle contre l'ordre des choses, les conventions sociales, la nécessité du travail. Car Claudel ne se révolte pas. Jamais. Il exulte. C'est tout juste s'il ne parle pas d'égal à égal avec son créateur. Je le cite. « Vous êtes ici et je ne puis pas être autre part qu'avec vous. » Fin de citation. La forme dans laquelle Claudel s'exprima fut inventée par lui et c'est justement qu'on a nommé son vers le verset claudélien, à l'instar du verset biblique. Dans une lettre du 13 juin 1917 au révérend père de Tonquédec, il écrit, je le cite, « La poésie est pour moi l'expression de sentiments forts et profonds, et secondement, le moyen de cette campagne d'évangélisation progressive de toutes les régions de mon intelligence et de toutes les puissances de mon âme que j'essaie de poursuivre, depuis le jour où je me suis converti. »
Et justement, on connaît l'histoire de sa conversion, un soir du 25 décembre. Mais comment se manifeste sa foi dans sa vie et dans son œuvre ?
Très belle question, Didier, merci. C'est vrai qu'une grande partie de sa vie a été sans bonheur et sans grâce. Il a dit que sa jeunesse avait été très malheureuse, marquée par la connaissance de la mort et le sentiment de l'abandon. D'ailleurs, on peut le voir aussi dans la vie de sa sœur, Camille Claudel, à travers le très beau film où Isabelle Adjani interprète le rôle de Camille Claudel tout en souffrance. Revenons à Paul Claudel. En tête d'or, nous n'écoutons pas le chant de l'exaltation du vouloir et du jeune désir. Partage de midi nous a laissé l'image d'un homme séparé, qui ne trouve pas sa société avec les hommes, qui n'est pas en accordance avec soi. C'est que les problèmes et les difficultés, les souffrances, il les porte en soi plutôt qu'il ne les éprouve. Et alors, qu'est-ce qui s'offre à lui ? Une religion de faiblesse, celle des humiliés et des vaincus, qui recommande l'ascèse, le dénouement, le sacrifice de soi, l'abandon du monde et le désir de l'infini. Comment va-t-il s'arranger avec ce don ? Don grandiose, bien sûr. Les œuvres qu'il écrit alors emportent la trace. Tête d'or repousse toutefois en l'au-delà toute illusion supra-humaine. Après sa conversion, et jusqu'à l'heure de la crise, ce qui paraît le maintenir à l'écart de ce qu'il croit, c'est, chose bien étrange, la certitude même de sa croyance, la peur de se perdre, la peur d'entrer en contact avec le mal, et pour tout dire, l'ignorance du péché, de cette mort qu'est le péché. Il le dit et leur redit. Pour Adam, Ève est cause de souffrance parce que d'intelligence. Pour Osée, Gomère est cause d'intelligence parce que souffrance. Pour Judas, Tamar est cause de lucidité parce que de péché. Pour Barak, Déborah est cause de courage parce que de honte. La confiance en la femme est mal justifiée, nous dit Claudel. Rebecca trompe Isaac. Jacob doit quitter sa mère, l'oublier et désespérer pour recevoir la vraie bénédiction. Les victoires des femmes sont quelquefois le droit de Dieu, mais dues à leur cruauté, on pense à Esther, souvent doublée de terribles faussetés, bien sûr Jaël, Judith. Le partage de midi montre l'importance maternelle, l'amour rêvé par l'homme mal sevré, comme un retour au giron universel. Et si les fiançailles de Violaine ont la fraîcheur du cantique des cantiques, leur arrière-plan a d'autres résonances. La femme comme salut, Claudel a lu la Vulgate dans une éternelle pêche au symbole. Chez Claudel, on peut vivre jusqu'aux limites. Ses baisses ni tête d'or, Mésa ni Isée n'en finissent de finir jusqu'au jour du subit écroulement qui, plus qu'un décès, est fin du monde. Claudel écrit, je le cite, « Les histoires ou paraboles de l'Ancien Testament et du Nouveau ne sont pas simplement des anecdotes faites pour amuser un moment l'imagination. Elles ont un caractère que j'appellerais typique. Je veux dire par là qu'elle dessine des attitudes de quelque chose, en quelque sorte essentielle et monumentale de l'être humain, qu'elle rapporte des événements parfaits, qu'elles établissent des standards, des thèmes dont tout ce qui arrive autour de nous n'est que le développement, l'illustration ou la dégradation. » Fin de citation. On trouve là l'illustration de ce propos dans son texte intitulé « L'histoire de Tobie et de Sarah ». Dans ce drame, comme l'indique Claudel lui-même, je cite, « un double cœur de chaque côté de la scène fait le commentaire de l'action ». Donc dans ce drame, il est permis de supposer l'influence de la poésie lyrique des Hébreux, en particulier de la poésie chorale des psaumes. On peut lire aussi, je cite, « du cœur de la brebis qui ôtera le désir de l'herbe fraîche, du cœur du vieillard qui ôtera le désir de Dieu ». Fin de citation. C'est là une réécriture ou tout au moins une imitation du livre de la sagesse ou des proverbes.
Il a beaucoup été question d'amour dans toutes ses œuvres. Quelle est sa conception de l'amour?
Oui, très intéressante question parce que ce n'est pas simple chez Claudel. Alors que, par exemple, chez Nerval, chez Novalis, chez Goethe, l'amour pour la femme est le premier anneau de la chaîne, dont le dernier est l'amour pour Dieu. Chez Claudel, en revanche, l'amour pour la femme est l'ombre inversée et satanique du second, c'est-à-dire de l'amour de Dieu. Si la conversion de Claudel n'avait pas été suivie de son amour pour une femme mariée, son œuvre n'eût sans doute pas connu la grandeur qu'elle a prise. C'est que le thème de l'amour retentit, par exemple, dans la scène du partage de midi, où on voit Mésa et Isée dans les bras l'un de l'autre, cédant à un amour qui ne peut que les détruire. Si jamais amants peuvent dire avec vérité le vers de Dante que je cite, « Amor condotte noi » ad una morte, l'amour nous conduit à une mort certaine, et c'est dans le chant 5 de l'Enfer de Dante, c'est bien ici, hein, dans le partage de midi, que l'on retrouve cette forme d'amour. Écoutons, hein, je cite, « Ah, ce n'est point le bonheur que je t'apporte, mais ta mort, et la mienne avec elle. Mais qu'est-ce que cela me fait à moi, que je te fasse mourir? Et moi, et tout, et tant pis, pourvu qu'à ce prix, qui est toi et moi, donné, jeté, arraché, lacéré, consumé, je sens ton âme un moment, qui est toute l'éternité, toucher, prendre la mienne, comme la chaux astreint le sable, en brûlant et en sifflant. » Fin de citation. Dans d'autres pièces que le partage de midi, résonnent encore aussi les grandes notes du mythe de Tristan. La blessure d'amour inguérissable, l'attrait irrésistible et comme une espèce de prédestination l'un pour l'autre. Les amants qui se reconnaissent à l'appel de leur nom. Mésa, je suis Isée, c'est moi, tout simplement. Donc, qui se reconnaissent l'un pour l'autre aussi, ils reconnaissent l'interdiction, leur longue passion et leur séparation fatale. On trouve dans tout le théâtre claudélien des rappels assourdis de deux idées assurément liées au grand thème de Tristan et Iseux. D'une part, la femme est, je cite, « toute la joie de l'homme », fin de citation, son désir essentiel. La vieille, l'éternelle promesse, hein, comme il est dit dans le soulier de Satin. Mais d'autre part, elle est pour l'homme l'étrangère, insaisissable. On pense à Lecce El Berno. Elle est la mère déception, Isée. La possession interdite, Violaine, Prouèse. La promesse qui ne peut pas être tenue, Lala et Signe. Je cite encore Claudel, ô femme, ô compagnon féminin, amer ami, ô notre amère vie, ô amour comme l'orange amère au cœur et à la bouche, fin de citation, et c'est un extrait de La Ville. Quel théâtre fit jamais entendre musique d'amour plus passionnée, plus déchirante que le théâtre claudélien? Mais ce désir irrésistible qui fait qu'un homme et une femme sont mus l'un vers l'autre comme vers leur béatitude, c'est ce même désir qui les attire au plus haut de ce qu'ils sont l'un pour l'autre, donc au plus haut d'eux-mêmes, et qui, dès lors, noue entre eux une relation telle qu'elle ne pourra se parfaire en deçà de leur propre perfection. D'où l'idée du sacrifice qui est inséparable de l'exigence d'un amour total. Les amants claudéliens sont faits pour d'autres étreintes que celles de la terre. Cela même qui les prédestine à s'unir les sépare de toute la soif dont ils se désirent, car cette soif n'est pas du corps, hein, le corps seul mortel. Cette soif est de l'âme, ou l'enfant de Dieu dans la lumière. Aussi, nous faut-il laisser le corps en arrière quelque peu, dit l'ange gardien de Prouèse. C'est leur âme que les amants ont à conquérir pour se la donner mutuellement dans une joie dont la possession charnelle ne serait, je cite Claudel, qu'un simulacre au désert. Prouèse doit faire et parfaire son âme pour élever celle de Rodrigue à la hauteur de son total désir. Mais qu'il est long et amer le chemin pour conquérir son âme, pour conquérir l'âme de l'autre. Pour Mésa Isée, ce chemin se révélera calice, mais calice nécessaire, calice qui amène fécondité et bonheur. Hein? Oui, en effet, féconde et bienheureuse blessure si les amants consentant au sacrifice découvrent que ce sacrifice est véritablement chemin de joie. Je cite, « L'homme, entre les mains de la femme, oublie Dieu, dit Prouèse. Mais entendons bien, tous les amants du théâtre claudélien ne sont pas astreints à une telle ascèse de l'amour. Le visage de Donia Musique est là pour exhaler comme une rose le plus beau chant d'amour heureux qui se puisse entendre, parce qu'il y a chez Claudel de l'amour heureux aussi. Ce que Claudel veut dire avec ses amants douloureux, c'est qu'il y a dans l'amour pleinement considéré une infinité inexprimable sur le plan de sa condition humaine et que cette infinité appelle le ciel. Claudel sait que l'amour n'est pas celui qui cède aux insinuations dissolvantes de la nuit, qu'il ne hait pas le jour, mais le postule pour sa joie, et qu'au-delà de ce jour terrestre traversé de douleur, sa vraie patrie est cette lumière de Dieu dont un éclair, comme la grâce, a brillé pour l'homme un instant dans les yeux de la femme, et cet éclair a suffi pour arracher l'homme à sa suffisance, à son orgueil. Claudel n'a cessé d'affirmer le sens ascendant de l'amour véritable et sa finalité lumineuse. C'est Béatrice, figure de la femme éternelle, et à travers elle, figure de la grâce et de cette mystérieuse sagesse du livre des Proverbes dont Claudel, depuis le soir de sa conversion du 25 décembre 1886, n'a cessé de subir la fascination et qui est, avec le dernier mot de son ode jubilatoire, le chiffre illuminateur de ses amants douloureux, je cite, « Il n'y avait vraiment pas d'autre moyen que de te rompre pour l'ouvrir, pour que le ciel avec la terre entre en toi, pour que Dieu pénètre, pardonne, qu'une autre main n'aurait su approfondir la blessure que je t'avais faite. »
Et justement, il y a Paul Claudel, poète. On a beaucoup parlé du vers claudélien, mais il est surtout connu en tant que dramaturge.
Bien sûr.
Quelles sont ses principales œuvres théâtrales ?
Alors, c'est vrai que nous avons déjà parlé, toi et moi, dans une autre émission, de certaines pièces, La jeune fille violaine, Le soulier de satin, etc. On va parler là de pièces un peu moins connues. Tête d'or. Tête d'or, c'est un vaste drame dont Claudel a dit qu'il était un de ses ouvrages les plus importants. En vérité, tout s'y trouve, comme si la jeunesse était pourvue de je ne sais quel don prophétique. Toutefois, le problème essentiel n'est pas celui de la possession de la terre, comme on pourrait le croire, c'est celui de l'amour. Si l'on entend que l'amour est ce qui lie deux êtres l'un à l'autre, ce qui les unit, ce qui les rend comme un. Pour Claudel, tout l'univers est fondé sur l'amour Dieu. L'amour Dieu, parce que Dieu a créé sans aucune nécessité, mais parce que son amour surabonde, eh bien, tout amour est de Dieu. La création elle-même fut un acte d'amour. Se soumettre à l'ordre de l'univers, c'est donc pour l'homme aimer Dieu par-dessus toute chose et par-dessus lui-même et n'aimer tout le reste qu'en fonction de Dieu et à cause de Dieu. Claudel a voulu montrer dans Tête d'or ce qui arrive lorsque Dieu est oublié ou renié, parce qu'à ce moment-là, l'homme cherche à prendre en lui-même équilibre et subsistance. Une autre pièce, pas connue du tout, mais aussi importante, La ville, publiée en 1890. Dans sa première version et en 1897 pour la deuxième version. Tout d'abord, dans la première version, la ville était Paris, mais dans la deuxième version, c'est une ville sans nom. Simplement, la ville en soi, l'agglomération humaine sans aucune marque particulière et les problèmes que pose fatalement le grand nombre des hommes entassés en un seul lieu. Des personnages comme Isidore de Besme, le maître de la ville, le maire de la ville, son frère Lambert, faible, avare, qui porte en lui un esprit de violence et de destruction. Les personnages masculins. Il y a de sa bouche même la malédiction des prophètes pour Sodome, pour Ninive et pour Babylone, car toute grande ville emprunte quelque chose de ses figures éternelles. Elle a de Sodome la lubricité, de Ninive la violence et la cruauté, et de Babylone l'incommensurable orgueil. Et puis, il y a aussi une jeune fille, Lala, jeune fille que Lambert a recueillie quand elle n'était qu'une enfant. Il veut l'épouser depuis qu'elle a grandi un peu. Il songe à l'amour à un âge où la plupart des hommes éprouvent déjà l'appel du tombeau. Il est donc absolument ridicule. Ava, lui, veut conquérir sa liberté et briser la prison que constituent tous ces hommes agglutinés et installés au milieu de cette mort qu'ils méconnaissent, pareil au serpent d'airain dans le camp des Hébreux. Je cite, « Je frapperai cette habitation de corruption et comme un huissier qui apparaît chassant le peuple, avant qu'on ne fasse la cérémonie, je ferai reculer de lui la race humaine. » Fin de citation. C'est bien là le langage des prophètes qu'utilise Claudel, de ceux qui parlent au nom de Dieu. Avare est l'instrument des vengeances divines. Lambert est celui à qui Dieu a donné la clairvoyance, limitée aux choses visibles. Il est l'homme du désespoir. Lala, elle, se tourne vers lui et lui dit le mot qu'il attendait, je cite, « Ô Sodome, pourquoi parler de mort quand tu vis et que sais-tu de quand tu mourras ?» Fin de citation.
Parle-moi donc d'un drame plus connu du grand public, l'Échange, qu'on qualifie souvent de drame de l'exil.
Oui, très 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 belle pièce, composée en 1893 à New York. Claudel écrivait, je cite, « Le sujet de l'Échange est le suivant. Je me suis peint sous les traits d'un jeune gaillard qui vend sa femme pour recouvrer la liberté. » Fin de citation. Donc, un jeune Américain, Louis Lane, a épousé une femme française, Marthe, et il l'a emmenée avec lui de l'autre côté de l'océan. Mais en épousant Marthe, Louis Lane ne savait pas ce qu'il faisait. Cette jeune fille l'avait aimé, avait consenti à le suivre. Maintenant, au moment où le drame commence, il est embarrassé. Tout ce qu'il peut y avoir d'aspiration désordonnée dans l'âme d'un jeune homme, tout cela compose le personnage de Louis Lane. Marthe, elle, figure aux yeux de Claudel, je cite, « la passion de servir et la patrie absente ». Elle est tendre, soumise et énergique à la fois. Son mari l'appelle « douce amère ». Lorsqu'elle a épousé Louis Lane, ce n'était pas qu'elle espérât de lui le bonheur, mais elle l'aimait, tout simplement. Quand il la rejette, elle est sans espoir, mais non pas sans droit, et elle le sait. Un droit qui n'est pas inscrit dans les codes, mais dans la nature des choses et dans la volonté de Dieu, ce droit suprême, ce droit même qu'Antigone revendique en face de Créon. Je cite Lane. Je ne te demande point de douces paroles ni de caresses. Ce n'est point là ce que je te demande. Donne-moi ma part. Donne-moi la part de la femme. » Fin de citation. Mais c'est justement cette part-là que Lane ne peut pas lui donner et qu'il ne veut pas lui donner. Et il répond, « Ma vie est à moi et je ne la donnerai pas à un autre. » Je suis jeune, j'ai toute la vie à vivre, je serai libre en tout, je ferai ce qu'il me plaira de faire. » Fin de citation. C'est ce qu'il répond donc à Marthe. Jamais l'esprit de fuite, jamais l'esprit d'évasion ne furent exprimés d'une manière aussi forte. L'état de Louis Lane est un état de perpétuelle efférence. Marthe représente l'élément nécessaire de détermination, d'assujettissement, de soumission à la loi, ce qui rend la liberté inconcevable. La tâche de l'homme, c'est la femme que Dieu a créée pour être sa compagne, pour laquelle il doit quitter père et mère. Je cite, « C'est vrai, ce n'est pas moi qui t'ai donné la vie, mais je suis ici pour te la redemander. » Et de là vient à l'homme, devant la femme, ce trouble tel que de la conscience comme dans la présence du créancier, fin de citation. C'est alors qu'entrent en scène deux nouveaux personnages, Thomas Pollock, nageoire, et Letchi Elbernon. Lui est un marchand qui échange tout par le moyen de l'or. Il vit avec Letchi Elbernon, une actrice. Louis-Laine dit qu'il faut les ménager parce qu'ils sont riches et puissants. Et Marthe se résigne. Et le drame prévisible se joue. Louis-Laine trompe Marthe avec Lucie Elbernon. Et il accumule les injures pour que jamais plus une réconciliation ne soit possible avec Marthe. Comme le Christ aux outrages, Marthe supporte tout. Et quand elle s'adresse à Louis-Laine, je cite, « Ris de moi aussi, Laine. Regarde-moi et réjouis-toi de l'échange que tu as fait. » Fin de citation. Et la réponse de Louis-Laine est encore une fois l'éternelle réponse des lâches. Je cite, « Je sais que je te fais mal, mais je ne peux pas agir autrement. J'aime cette femme. » Fin de citation. Quand Lucie Elbernon prend la parole, elle ne dissimule rien de son passé crapuleux. Elle dit à Louis-Laine, je cite, « Aime-moi car je suis belle. Aime-moi car je suis l'amour et je suis sans règles et sans loi. » Fin de citation. Marthe dans la pièce est une éveilleuse d'âme. Marthe dans l'échange, d'ailleurs, il faut se rappeler qu'elle s'appellera plus tard Violaine, est de celle dont l'harmonie est irrésistible. La conclusion de cette pièce, l'échange, n'est que le rétablissement de l'ordre troublé. C'est Marthe qui a permis tout cela. Une petite âme très simple, très droite, très pure, qui ne connaît que son devoir et la ligne droite. N'ayant pas pu faire le salut d'un seul, elle a été le salut de plusieurs, car dans l'économie de l'univers, il n'y a rien d'inutile. Marthe doit sentir sur son front la bénédiction du Père dont elle a fait la volonté très sainte et non la sienne.
Dans une précédente émission, nous avons parlé de l'annonce faite à Marie, de la jeune fille Violaine, du soulier de Satin. Peux-tu nous présenter la pièce « Partage de midi » ?
Oui. Et c'est une des plus belles pièces que je connaisse. Partage de midi est écrit en 1906. C'est la pièce, peut-on dire, de la maturité. Le premier acte se passe à bord d'un bateau qui fait route vers la Chine. Quatre passagers ont parti liés, puisqu'ils sont enfermés sur ce bateau. Mesa, Amalric de Cise et Isée. Mesa est un homme taciturne et silencieux. Isa est mariée, elle, à un homme faible. Elle est décrite ainsi dans la pièce. Je cite. « Ce n'est pas une coquette, méfiez-vous-en. C'est une guerrière, c'est une conquérante. Il faut qu'elle subjugue et tyrannise ou qu'elle se donne. Maladroitement, comme une grande bête piffante. » Fin de citation. Et celui qui l'a décrit ainsi, c'est Amalric, un aventurier, comme le mari disait, mais d'une autre envergure. Les femmes ne résistent pas à Amalric et il suit ses désirs avec une énergie virile. Il dit d'ailleurs à Isée, dès leur premier entretien, je cite, « Quand je le voudrai, ma guerrière, je vous mettrai la main sur l'épaule. Je prendrai Isée, je tiendrai Isée, j'emmènerai Isée. » Fin de citation. Mais il y a Mesa. C'est être trop faible. Un couple bien étrange en vérité, qui a à voir avec l'histoire de Tristan et Iseux. Quelle que soit la beauté des choses auxquelles il faut renoncer, il faut y renoncer pour ce qui est seul nécessaire. Terreur de ne pas correspondre à la grâce, tel est le drame de Mesa, un mal dont il sait que nulle créature, même pas Isée, ne le guérira. Et la présence que Dieu donne pour compenser cet exil est une tentation à laquelle on peut à peine résister. Chaque matin et chaque soir, nous répétons à Dieu « Et nenos inducas in tentationem hein, »« Ne nous induit pas la tentation » et voici que la tentation est là, qu'elle flatte notre âme par cette chair précisément qui nous empêche de voir Dieu. Et c'est ce à quoi Mésa c'est ce de quoi Mésa fait grief au Créateur et en appelle à sa miséricorde. Isée s'est dressé devant lui à cette heure de midi. Ils se regardent dans les yeux et chacun aperçoit dans le regard de l'autre, je cite, une réponse et une question. Puisqu'Isée, elle est impossible, Mésa peut bien la regarder. Je cite le texte. Il est dur de garder tout son cœur. Il est dur de ne pas être aimé. Il est dur d'être seul. Il est dur d'attendre et d'endurer et d'attendre toujours. Et encore, et me voici à cette heure de midi où l'on voit tellement ce qui est tout près. Ah, que le présent semble près. Et l'immédiat a notre main sur nous, comme une chose qui a force de nécessité. Je n'ai plus de force, mon Dieu. Je ne peux plus attendre. Fin de citation. Et c'est Mésa qui parle à l'acte premier. Isée tremble pour lui, elle tremble pour elle. Mésa n'est point beau. Il ne sait pas parler aux femmes. Il est tout ensemble timide et brutal. Mais il dit à Isée ce que nul autre avant lui n'avait su dire. Cise, le mari inexistant, a su faire des enfants, mais il ne l'a jamais possédé véritablement. Ce n'est pas un mari, mais un vulgaire séducteur. Lorsque Mésa demande à Isée, je cite, « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Elle répond, je cite encore, Je ne sais. Je n'y ai jamais pensé. » Fin de citation. Mais ce qu'Isée aperçut en Mésa, c'est justement la présence de Dieu qu'il ne peut pas contenir, lui, Mésa. Elle ne sait pas si elle croit en Dieu, mais elle perçoit en Mésa la présence de Dieu. Ce n'est pas sans le recours ou plutôt sans le secours de la Providence que Mésa a rencontré Isée sur ce bateau, à l'heure de midi. Ce n'est pas sans la volonté de Dieu que cette femme tout à coup s'est dressée devant lui. Mésa demandait une réponse à Dieu, et Dieu lui répond en le conduisant par la main vers Isée. Nous sommes au centre du drame. Et au lieu de considérer Isée comme une âme en péril qu'il faut sauver au prix de sa vie même, Mésa ne voit de ses yeux charnels que cette femme désirable, devant lui, cette femme qui lui était prédestinée, non pas pour la posséder en ce monde, mais pour l'éveiller à une vie supérieure dans l'éblouissement de midi. Mais il n'aperçoit, dans ce partage de midi, que la chair d'Isée. Il prend pour un piège de Dieu la plus grande grâce qui lui a été faite. Il n'y a pas de pire péché que d'abuser des dons de Dieu, d'élire comme fin ce qui ne doit être qu'un moyen. Isée, elle, sent confusément que pécher avec Mésa serait une erreur. Tout ce qui en elle attendait le salut s'émeut et résiste. Si Mésa avait été un saint, sa chute serait incompréhensible et scandaleuse. Mais il n'est pas encore un saint. Et sa chute est juste et nécessaire.
Que peut-on dire pour conclure sur Paul Claudel ?
Et oui, quelques mots, Didier. Prophète des derniers temps, des derniers temps, peut-on dire, du christianisme et des derniers temps de la pensée occidentale. Claudel est en même temps un de ceux qui permettent de remonter à cette sympathique, sympathie originaire avec les choses dont un écrivain comme Whiteman ou encore un Lawrence, un Rilke nous donne de façon diverse l'intuition. Le lecteur, sitôt qu'il a trouvé accueil à l'intérieur de cette œuvre, résiste peu à la tentation de joindre sa voix au chant du poète. Il en va comme de certaines cathédrales. Si l'on est resté en dehors, on ne peut rien dire. Mais une fois entré, l'on se trouve participé au culte sans même l'avoir voulu. Tout homme chrétien ou non éprouve en lui-même la double postulation dont parlait Baudelaire. Claudel, lui, a souvent dit l'horreur qu'il éprouvait pour la via media et pour les vertus moyennes. Les drames claudeliens sont remplis de violence et d'excès. Si Tête d'Or n'avait pas eu l'ambition d'être un dieu, il n'y aurait pas eu de dieu. Cette recherche du paradis à travers mille obstacles de l'innocence primitive, tel est le sens de tous les drames claudeliens. Le repos du septième jour nous donne, par exemple, le spectacle d'une cité qui pourrait être parfaite si les droits de Dieu y étaient respectés. Enfin, le soulier de satin est le grand poème du paradis perdu et retrouvé. Chaque pièce porte la trace d'un obstacle vaincu et dépassé chez Claudel.
Merci Joyce pour cette belle émission autour de Paul Claudel.
Oui, un poète, un dramaturge que j'aime particulièrement. J'espère que je peux peut-être convaincre nos auditeurs de lire ou de relire Claudel. En tout cas, merci à vous, chers amis auditeurs, d'avoir été à notre écoute. Merci à toi, comme toujours, au fidèle Didier et au poste Didier. Et puis à très bientôt, chers amis auditeurs, nous vous parlerons de notre poète René Char.